des 7h.
On est dans le flou, quoi. D'un coup, on vous dit, en fait, peut-être que demain, votre voyage est annulé et peut-être que même vos arts, enfin, votre voyage complet, on ne sait même pas si on va être remboursé.
Ils sont dans le flou, amertume des clients du voyagiste Thomas Cook qui risque de ne pas partir en vacances après l'annonce de la faillite cette nuit. Au total, il faudra rapatrier 600 000 personnes dans le monde.
Emmanuel Macron prend la parole ce soir au sommet sur l'urgence climatique à New York. Nous serons avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Rémy Baudeau. Des centaines, voire des milliers de victimes, le procès du Mediator s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Paris.
On n'est pas un peu malade du Mediator. On est très malade du Mediator. Et il faut avoir à l'esprit que ce scandale du Mediator a été à l'origine de plusieurs milliers de victimes.
Et ce sera l'enquête Europe 1, signée Chloé Triomphe. Le projet de loi bioéthique, avec notamment la PMA pour toutes, arrive demain à l'Assemblée. D'ores et déjà, certains catholiques se préparent à la mobilisation.
Mes petits-enfants sauront que leur grand-mère, elle était sur le tarmac. Il y aura les résultats qu'il y aura, mais c'est pas grave.
Et puis Neymar, le sauveur du Paris Saint-Germain, le Brésil qui a marqué le but de la victoire hier soir à Lyon. Score final 1-0, 7h01. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Le coup près est donc tombé pour le plus ancien voyagiste du monde. On l'a appris dans la nuit, Thomas Cook se déclarant faillite faute d'avoir trouvé les fonds nécessaires pour poursuivre ses activités. L'angoisse pour les 600 000 touristes en vacances qui devront être rapatriés, mais aussi pour tous ceux qui doivent partir comme François, un Marseillais censé prendre l'avion mercredi, direction la République dominicaine. Il a déjà subi les conséquences de la faillite d'XL Airways la semaine dernière. Et maintenant, avec Thomas Cook, c'est la goutte d'eau.
Vendredi, je reçois déjà un premier appel de l'agence qui me dit comme quoi notre voyage est annulé suite à la faillite de XL Airways. Du coup, je suis allé directement à l'agence. Ils ont trouvé un nouveau vol en départ de Nice, majorant une somme de 500 euros en plus. Donc du coup, nous avons payé cette somme et là, nous voyons ça maintenant sur les réseaux comme quoi maintenant Thomas Cook est en faillite, quoi. Voilà. Ah, c'est la double peine et ça fait un peu beaucoup, je trouve. On a essayé d'appeler, il n'y a personne qui répond, quoi. Il n'y a rien. Même le service client 24-24, là, il y a trop d'appels. Ça fait un peu dur le week-end. On est dans le flou, quoi. D'un coup, on vous dit, en fait, ben, peut-être que demain, votre voyage est annulé et peut-être que même vos arts, enfin, votre voyage complet, on ne sait même pas si on va être remboursé, si on va avoir quoi que ce soit. À 3 jours du départ, je me dis, ben, je vais perdre peut-être 2600 euros, pas partir en vacances. Un peu pénible, quoi. C'est même très, très, très pénible, très énervant. L'agence, elle ouvre à 9h30 à l'agence du Prado. Vous pouvez être sûr que je serai devant.
Voilà, la double peine pour ce Marseillais au micro européen de Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
C'est donc un cauchemar pour 600 000 touristes dans le monde, dont 10 000 Français. Leur retour à la maison est désormais compromis avec la faillite de Thomas Cook. C'est votre éclairage éco ce matin.
Oui, et on a assisté ce week-end, figurez-vous, à des scènes à peine croyables. À Mamet, par exemple, en Tunisie, des touristes britanniques qui avaient réservé par Thomas Cook ont été séquestrés à leur hôtel. Les agents de sécurité les ont empêchés de partir s'ils ne payaient pas un supplément parce que l'hôtel craignait de ne pas être réglé par l'agence de voyage. Alors, Thomas Cook, c'est une société britannique fondée au milieu du 19e siècle. C'est l'inventeur du tourisme de masse. 19 millions de clients par an, 22 000 employés. Les réunions se sont succédées à Londres cette nuit pour tenter de sauver l'Empire, mais rien n'y a fait.
Elle est en faillite, hein, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de touristes dans le monde.
Oui, mais beaucoup réservent en direct par Internet sans passer par une agence de voyage. On trouve évidemment facilement des packages vol plus hôtel sur ces plateformes qui concurrencent les agences traditionnelles. Thomas Cook a aussi souffert ces dernières années sur des destinations de masse d'Afrique du Nord ou d'Égypte à cause des risques terroristes. Et puis certains spécialistes du secteur citent le réchauffement climatique qui incite les Européens à rester en Europe plutôt que d'aller plus au sud. Bref, ça fait des années que le business de Thomas Cook s'érode. La faillite était inéluctable. En attendant, Londres est en train de monter ce que les médias britanniques qualifient de plus grande opération de rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale pour éviter que des touristes restent pris en otage dans un palace de Tunisie. Même s'il y a pire, ça n'est quand même pas drôle.
Merci Nicolas Barré, directeur des Échos.
Et comme Guylaine qui nous a appelé en direct dans le journal de 6h tout à l'heure, vous aviez un voyage prévu avec Thomas Cook ou peut-être que vous avez du mal à rentrer de vacances à cause de cette annonce. 3921 et le hashtag Europe 1.
C'était l'éclairage Écho avec la Caisse d'Épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne. Épargne, vous êtes utile. Europe 1, il est 7h05.
Emmanuel Macron est à New York, où s'ouvre aujourd'hui un sommet sur l'urgence climatique.
Oui, 3 jours après les manifestations auxquelles ont participé des millions de jeunes sur tous les continents, le président fait partie de la 60aine de dirigeants mondiaux qui se retrouvent au siège des Nations Unies. Jean-Rémy Baudeau, vous allez suivre ce sommet pour Europe 1. Depuis New York, la France espère bien jouer les premiers rôles.
Oui, il y a tout juste un an, Emmanuel Macron recevait ici à New York l'étrange distinction de champion de la Terre pour son engagement pour le climat. Et un an après, le président français se vit toujours comme tel. Au niveau européen, il tente de porter une coalition pour la neutralité carbone en 2050. Mandaté par l'ONU, il essaie de convaincre le monde du business de se tourner vers la finance verte. Et ce matin encore, il va présider une conférence sur la forêt tropicale en proie aux flammes. Sauf que le président Macron se heurte à la réalité d'abord de la diplomatie internationale. Le Brésil refuse toujours de dialoguer sur l'Amazonie. Donald Trump ne revient pas sur sa promesse de sortir de l'accord de Paris. Et en France, ONG et opposition dénoncent son inaction supposée sur le climat. Pour Emmanuel Macron, la journée ici à l'ONU a donc un double objectif, conforter sa stature internationale sur la lutte contre le réchauffement climatique et envoyer un message à ses concitoyens, particulièrement ceux qui ont manifesté pour le climat ce week-end, qu'au-delà des discours, il mérite encore ce titre de champion de la Terre.
Jean-Rémy Baudot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à New York.
Œuvrer pour le climat, c'est aussi du concret dans notre vie quotidienne, mieux isoler nos logements, par exemple. Mais attention aux arnaques.
Oui, vous avez peut-être déjà reçu des propositions alléchantes, comme le remplacement de votre chaudière pour seulement 1 euro. Eh bien, la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, veut lancer un plan de lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique. Elle l'a annoncé hier sur Europe 1.
On va faire plus de contrôles sur les artisans et on va aussi aider les Français à savoir comment se repérer dans tout ça. L'aide à la conversion pour les chaudières, ça fonctionne bien. On va en faire à peu près 150 000 cette année. On va faire à peu près 200 000 isolations. Mais on pourrait en faire plus et on pourrait les faire dans de meilleures conditions si les systèmes étaient plus simples, si les gens savaient à qui s'adresser et s'ils arrêtaient d'être harcelés au téléphone par des escrocs.
Emmanuelle Wargon, hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos.
Europe 1.
Le procès du Mediator s'ouvre aujourd'hui. Je vous le disais, un procès hors norme. 6 mois d'audience pour ce scandale sanitaire qui aura duré plus de 30 ans. C'est l'enquête d'Europe 1 de Chloé Triomphe. La suite du journal dans un instant.
Europe 1. Il est 7h08 sur Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès fleuve d'un scandale sanitaire qui aura duré plus de 30 ans. Le Mediator, cet antidiabétique aux effets secondaires redoutables, qui a été prescrit, il faut le rappeler, comme simple coupe-faim. Entre 1976 et 2009, date de son retrait du marché, on estime qu'environ 5 millions de personnes en ont consommé en France.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Avec ce procès, on se heurte à une difficulté finalement, c'est celle de juger un système de pharmacodélinquance supposé des années plus tard.
Oui, parce qu'il faut d'abord faire face avec l'absence de plusieurs acteurs du dossier, à commencer par Jacques Servier, fondateur et patron du laboratoire, décédé en 2014. On rappelle que le laboratoire est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités sanitaires les effets secondaires nuisibles de son médicament, une thèse que conteste Servier. Mais l'autre difficulté, c'est qu'il faut aussi regarder du côté de l'État, représenté ici par l'Agence du médicament, puissant organisme qui délivre les autorisations de mise sur le marché et soupçonné d'avoir tardé à tirer les conséquences des diverses alertes en raison de supposés conflits d'intérêts, un système opaque qu'il va être difficile d'éclaircir des années après et que dénonce maître Charles-Joseph Houdin, avocat de 250 parties civiles.
Les termes du rapport de l'IGAS restent et demeurent extrêmement valables. Il y avait un système de pharmacovigilance défaillant qui n'entendait pas les risques et les alertes et surtout un système qui défendait plus les industriels que les patients.
Pour autant, Chloé, le procès se tient. Il doit durer 6 mois, l'équivalent du procès Papon. Et c'est déjà une petite victoire pour les victimes.
Oui, c'est ce qu'elles ressentent et elles attendent aujourd'hui des explications car certaines vivent avec des complications cardiaques extrêmement handicapantes suite à la prise de ce médicament. Pour autant, très peu vont s'expliquer à la barre car le laboratoire Servier a déboursé plus de 116 millions d'euros en indemnisation à condition que celle-ci renonce à une poursuite judiciaire. Alors, elle pourront néanmoins s'exprimer en tant que témoins si toutefois le procès se poursuit, car il ne faut jamais écarter un report pour des questions de procédure et de droit.
Enquête du 7h, signé Chloé Triomphe.
Et à l'ouverture de ce procès 7h40, mon invité tout à l'heure, Gaëtan Rognard, l'une des victimes du Mediator, il en a consommé pendant 6 ans. Et Chloé le précisait, Jacques Servier, le patron fondateur des laboratoires Servier, décédé en 2014. Je lui poserai la question à Gaëtan Rognard, si Jacques Servier ne manquera pas à ce procès. Vous souhaitez témoigner, peut-être que vous aussi vous en avez pris du Mediator, 3921. Et le hashtag Europe 1.
Europe 1.
La loi de bioéthique, à partir de demain devant les députés, avec notamment la PMA pour toutes. Débat qui s'annonce plutôt explosif. A tout de suite sur Europe 1, la suite du journal.
Europe 1.
Europe 1, il est 7h12, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Attention, thème particulièrement sensible en vue à l'Assemblée nationale, la loi de bioéthique. Et l'un des enjeux majeurs de ce texte, c'est la PMA pour toutes les femmes.
Et plusieurs associations catholiques prévoient déjà de manifester la semaine prochaine, le 6 octobre. Johanna Chabas s'est rendue à la paroisse de Saint-Léon, dans le 15e arrondissement de Paris, où on reste marqué par l'échec de la manif pour tous.
Vous êtes 20 000, mais tout le monde va rigoler.
Je m'en fiche.
On était 1 million, on n'y est pas arrivé.
À la sortie de la messe, Frigide Barjot, égérie de la manif pour tous, et quelques militants passent de groupe en groupe pour convaincre les paroissiens de se mobiliser. Des tracts sont distribués. Ici, tout le monde est prêt à manifester le 6 octobre.
Je comprends que de ne pas avoir d'enfants, ça peut être une souffrance. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de descendre dans la rue. Il faut que je le fasse.
Mes petits-enfants sauront que leur grand-mère, elle était sur le tarmac et qu'il y aura les résultats qu'il y aura, comme on n'a pas été entendu pour d'autres combats. Mais c'est pas grave.
Parce que dans cette paroisse, les catholiques restent très marqués par l'échec de la manif pour tous il y a 7 ans. Arnaud va défiler, mais il pense que la loi passera malgré la mobilisation.
Je ne sais pas combien il faut être dans la rue pour vraiment faire basculer les choses. Et ils vont jusqu'au bout, ils discutent pas en fait. Il n'y a aucune négociation et on a l'impression qu'ils y vont quand même, quoi qu'en pensent les gens en fait.
En attendant le 6 octobre, la paroisse s'organise déjà. Une conférence sur la PMA est prévue demain soir.
Johanna Chabas, attention si vous devez prendre le train demain. Quelques perturbations en vue à la SNCF. Grève contre le projet de réforme des retraites avec en moyenne 2 intercités sur 5, 3 TER sur 5 et la moitié des transiliens. Peu de répercussions sur les TGV et trafic quasi normal à la RATP.
Le foot et les supporters du Paris Saint-Germain qui peuvent dire merci Neymar.
Ah oui, la superstar brésilienne a marqué l'unique but sur le terrain de Lyon hier soir à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Les Parisiens l'emportent donc in extremis 1-0. Si certains supporters lui en veulent encore, ses coéquipiers comme Thomas Meunier le soutiennent. Ils sont même bluffés par son talent.
C'est parfait, hein. Je regarde à l'entraînement tous les jours. Quand il a le ballon, tu te mets sur pause et tu le regardes faire. Et ici en match, c'est un peu la même chose. Des joueurs comme Di Maria, comme Mbappé, comme Neymar, c'est des joueurs d'instinct. On compte sur eux dans des moments difficiles.
Thomas Meunier avec Julien Froment, le PSG qui domine toujours le classement de Ligue 1 devant Angers et Nice. Angers qui a battu Saint-Etienne 4-1, égalité entre Rennes et Lille 1 partout.
Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours.
Ça vous parle, non, Mathieu? Ces histoires, elles ont accompagné des générations à l'heure du coucher. Claude Lebrun, prof de français, qui racontait les aventures de Petit Ours Brun, est morte à 90 ans près de Rennes. Elle avait inventé son personnage dans les années 70 et il était ensuite devenu un héros de dessin animé.
Plusieurs générations, combien de générations accompagnées par Petit Ours Brun aujourd'hui encore,
hein? Et une fois qu'on l'a dans la tête, je vous garantis que c'est bon pour la matinée.
Et un grand merci à Hélène Zélani pour cette musique de Petit Ours Brun. C'était le journal. Merci Hélène, à nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Carole Ferry.